إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons dans cette nouvelle rencontre de méditer sur certains récits mentionnés dans le Coran, et ce comme on a dit, afin d'en tirer des leçons et des enseignements. Parmi les récits immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnés dans son noble livre, il y a le récit de son prophète Yunus alayhi salam. Yunus fait partie des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya aux enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya aux gens de Ninive, qui est une province de la région de Mossoul. Yunus alayhi salam les appela à Allah à plusieurs reprises, mais ils refusèrent à chaque fois d'accepter son message. Suite à cela, Yunus alayhi salam fut alors irrité, et il ne patienta pas comme il lui convenait de patienter. Il prit donc la décision de les quitter, et leur promit la venue d'un châtiment. Une fois partis, leurs cœurs ont été guidés au repentir et au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lorsqu'ils virent les prémices du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dissipa alors ce châtiment suite à leur repentir. Mais Yunus alayhi salam les quitta et se dirigea vers la mer pour embarquer sur un bateau. Et son récit est mentionné à différents endroits du Coran. Et j'ai choisi pour la rencontre d'aujourd'hui que l'on médite sur les versets de Surat As-Safat à partir du verset 139, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa inna Yunus ala min al-mursalin » Yunus était certes du nombre des messagers. Ceci est un éloge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de son serviteur Yunus alayhi salam, qui fait partie des serviteurs qui ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, car il fit de lui un messager qui appela à la religion de vérité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ensuite qu'il fit subir à Yunus une épreuve ici-bas, de laquelle, comme on va le voir, il fut sauvé en raison de sa foi et ses bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Id abaqa ila al-fulk al-mash'un » quand il s'enfuit vers le bateau surchargé. Lorsqu'il vit que le châtiment dont il avait menacé son peuple tardait à venir, il les quitta et se dirigea vers la mer et embarqua dans un bateau surchargé de voyageurs et de marchandises. Une fois en mer, ce bateau faillit chavirer en raison de sa surcharge. Ses occupants furent alors contraints de jeter certains passagers à la mer afin d'alléger le bateau pour qu'il ne coule pas et que les autres passagers puissent ainsi continuer leur voyage et rester en vie. En effet, le fait que certains d'entre eux soient jetés était moins grave que de les voir tous couler et tous mourir. Et ne sachant pas qui jeter en mer, ils procédèrent alors à un tirage en décidant de jeter tous ceux qui seraient perdants à celui-ci. On voit à travers cela que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, il en prépare les causes. Yunus alayhi salam fut donc choisi pour être jeté en mer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset suivant, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضَحَضِينَ Il prit part au tirage qui le désigna pour être jeté à la mer. Une fois jeté en mer, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya une baleine qui l'avala. Mais celle-ci l'avala sans qu'aucun de ses os ne soit cassé, ni même qu'il ne soit blessé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. C'est-à-dire qu'il était blâmable en raison de son irritation. Une fois dans l'obscurité du ventre de la baleine, il prononça alors cette invocation immense. Et il dit, comme on le retrouve au verset 87 de Surat al-Anbiya, « Fanada fi al-zulumat, alla ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin » Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, « Nul n'est en droit d'être adoré à part toi, pureté à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. » On voit donc que dans cette invocation, il reconnut tout d'abord le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration. Et il le purifia de tout défaut et de tout manquement, il reconnut sa propre injustice envers lui-même. Et suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala le sauva. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. C'est-à-dire que c'est en raison de ses adorations et en raison de sa piété antérieure à cette épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Mais aussi en raison de ses louanges et de ses glorifications à Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de la baleine. Allah subhanahu wa ta'ala le sauva donc en raison de sa foi. Si Yunus alayhi salam n'avait pas été du nombre des croyants et qu'il n'avait pas été du nombre de ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Et celle-ci aurait été son tombeau. Mais en raison de ses adorations, antérieures à cette épreuve, et ses glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda son secours, comme il l'accorde à ses serviteurs croyants lorsqu'il se retrouve face aux épreuves et aux difficultés. Comme il le dit au verset 88 de Surat al-Anbiya, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à la baleine de le rejeter. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Nous le jetâmes sur la terre nue alors qu'il était malade. C'est-à-dire que la baleine le rejeta de son ventre sur une terre désertique. Une terre où il n'y avait personne. Une terre où il n'y avait ni ombre ni arbre. Et il était malade, en raison du temps qu'il avait passé dans le ventre de la baleine. Il sortit donc de son ventre, faible, comme un poussin qui sort de son œuf. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le gratifia, il dit, وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, c'est-à-dire un plant qui l'abrita de par son ombre. Car cet arbre est un arbre qui procure de la fraîcheur et sur lesquels les mouches ne se posent pas. Il trouva donc abri auprès de celui-ci. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard et de sa bienveillance envers lui. Puis il le gratifia encore et il dit « وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ » Et nous l'envoyâmes vers 100 000 hommes ou plus. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya appelé à lui, appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, appelé à la religion de vérité vers plus de 100 000 hommes. Fa'amanu. Ils crurent en Yunus alayhi salam, ils crurent en son message. Famatta'nahum ila hin. Nous les fîmes jouir alors de la vie pour un temps. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala écarta de ces gens le châtiment après que les causes de celui-ci furent dissipées. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 98 de Surat Yunus, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسِ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui est crue, et à qui sa foi eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent la foi, nous leur dissipâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente, et nous leur donnâmes jouissance pour un certain temps. C'est donc en raison de leur foi que le châtiment fut dissipé et qu'ils en furent préservés. On tire donc de ce récit de nombreuses leçons et de nombreux enseignements. Premièrement, on voit à travers celui-ci ce prodige qui a été accordé à Yunus alayhi salam. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré après l'avoir éprouvé. Il se retrouva dans l'obscurité du ventre de cette baleine, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui permit de l'invoquer, de se corriger et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation immense. Il ressortit donc du ventre de cette baleine sain et sauf, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda ensuite de quoi s'abriter. Puis une fois qu'il se rétablit, il l'envoya à nouveau appeler des gens à la religion de vérité. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit est l'importance de patienter dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne jamais désespérer de la guider des cœurs. Aussi égarés soient les gens que tu prêches, Aussi obstinés soient-ils, leurs cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. De la même manière que le croyant ne doit pas se sentir à l'abri de l'égarement, il en est de même pour l'égaré. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de le guider. Et à nous, il ne nous est demandé que de transmettre le message, de transmettre la vérité, d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler au tawhid, d'appeler à vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler à prendre pour arbitre dans l'ensemble de nos affaires le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Quant à la guider, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. La troisième leçon que l'on tire de ce récit, c'est que lorsque la personne se retrouve face à une situation dans laquelle elle est contrainte de choisir entre deux choses qui sont nuisibles et que l'une des deux est inévitable, alors on aura recours à la chose la moins grave, comme l'ont fait les gens du bateau dans ce récit. Ils étaient face à deux choix. Ou bien le bateau coulait et ils mouraient tous, ou bien ils jetaient à la mer une partie des passagers et certains d'entre eux pourraient alors rester en vie. Ils ont donc eu recours à la chose la moins grave. Et pour ce faire, ils ont eu recours à un tirage. Et ceci nous montre également la permission de faire un tirage en cas de nécessité, lorsque l'on doit choisir entre des personnes et qu'il n'y a aucun élément nous permettant de choisir des personnes en dehors des autres. La quatrième leçon et le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, qui est un enseignement immense, c'est que celui qui se consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, il trouvera les bénéfices de ses adorations et de ses œuvres pieuses lorsqu'il sera en difficulté. C'est pour cela que, lorsque tu es dans des moments d'aisance, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu ne fais pas face à des difficultés, il convient que tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu multiplies les bonnes actions. Car tu ne sais pas ce qu'il pourrait se produire et qui pourrait t'empêcher par la suite d'accomplir ces bonnes œuvres. Il se peut qu'une personne tombe malade et ne puisse par exemple plus jeûner. Il se peut qu'une personne tombe malade et ne puisse plus se prosterner et poser son front au sol, et ainsi de suite. Donc lorsque tu en as l'opportunité et la possibilité, il convient de multiplier les bonnes œuvres. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné dans un hadith authentique lorsqu'il dit « Empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant l'arrivée de troubles obscurs comme une partie sombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et sera le soir mécréant. Ou bien il sera le soir croyant et se lèvera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour un bien vil de ce bas monde. » On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage et nous incite à nous empresser dans l'accomplissement des œuvres pieuses et à multiplier ces œuvres pieuses avant de se retrouver dans une situation où il se peut qu'on les délaisse en raison de la préoccupation que l'on aura lors de l'arrivée des troubles et leur accumulation. En effet, lors des moments de troubles, les gens sont préoccupés. Il se peut que des personnes se retrouvent dans une situation où leur santé est tellement préoccupante qu'ils courent à droite à gauche, chez les médecins, dans les hôpitaux ou autres, et qu'ils n'ont plus le temps à consacrer à la multiplication des œuvres pieuses en dehors de leurs obligations. D'autres personnes vivent dans des pays où il y a la guerre, où ils vivent constamment dans la peur, dans l'insécurité. Chacun d'entre eux est donc préoccupé à rechercher un endroit où ils se trouveront en sécurité, et ne n'ont plus de temps pour se consacrer à l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'encourage donc à multiplier les œuvres de bien avant l'arrivée de ces troubles ou avant l'arrivée de ces situations où tu n'auras plus le temps de te consacrer à l'adoration. Et ceci comporte de nombreux bénéfices. Car les œuvres pieuses, elles sont une protection contre les troubles. Les œuvres pieuses, elles font augmenter ta foi. Et lorsque ta foi augmente, tu es plus ferme sur la vérité, bi'inillahi ta'ala. Donc celui qui se consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui multiplie les œuvres de bien lorsqu'il est dans l'aisance, alors lors des difficultés, il trouvera l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. comme on le retrouve dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa cette célèbre recommandation à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, alors que ce dernier n'était qu'un enfant. Il lui dit: rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il t'aidera lors de la difficulté. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, lorsque tout va bien. Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera et t'apportera son secours lorsque tu seras dans la difficulté. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus que les obligations que je lui ai prescrites. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il empoigne et son pied avec lequel il marche. S'il me demande une chose, je lui accorderai, et s'il implore ma protection, je le protégerai. Tu vois donc dans ce hadith que celui qui multiplie les œuvres de bien, qui accomplit ses obligations, et qui les fait suivre d'œuvres surrogatoires en multipliant les adorations, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans son ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans sa vue. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ses demandes, répond à ses invocations. Donc lorsqu'il se trouvera en difficulté et qu'il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa protection et son secours. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit: celui qui se comporte envers Allah avec piété et obéissance lors de l'aisance, Allah se comportera vers lui avec clémence et aide lors de la difficulté. Allahu Akbar. Si lorsque tu es dans l'aisance, tu fais preuve de piété et que tu multiplies les œuvres de bien, alors lorsque tu seras en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala sera clément envers toi et t'accordera son aide et son secours, comme il l'a accordé à son prophète Yunus alayhi salam lorsque celui-ci se retrouvait dans l'obscurité du ventre de la baleine. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce récit, c'est le mérite de cette invocation qu'a prononcé Yunus alayhi salam, celle au sujet de laquelle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation de mon frère Yunus, aucune personne en difficulté ne la prononce sans qu'Allah ne lui accorde la délivrance. Sans qu'Allah ne lui accorde la délivrance. Donc, il convient à chacun d'entre nous de méditer sur cette invocation, de la prendre et de la prononcer lorsque l'on se retrouve en difficulté. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de toi. Pureté à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. Lorsque Yunus alayhi salam prononça cette invocation, il fut sauvé de son épreuve, comme on l'a dit, en raison de sa foi et de ses bonnes œuvres. Ceci était donc quelques leçons et quelques enseignements que l'on peut tirer de ce récit. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à multiplier les œuvres de bien et de piété. Multiplions les bonnes actions pendant que nous pouvons encore le faire. Profite de ta santé pour multiplier les œuvres de bien et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ton temps libre pour multiplier les œuvres de bien et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ta force pour te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ta richesse et de tes biens pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les aumônes, et ainsi de suite. N'attends pas les difficultés. Profite de ces moments d'aisance, non pas pour plonger dans l'insouciance, plonger dans la distraction et les futilités, mais profite de ces moments d'aisance pour te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.